du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur, ce soit une création nouvelle
Et vous nous
sur la face de
renouvelez
la
la face de la
terre.
terre.
Nous prions, Dieu, qui avez déjà envoyé votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour
du
nous.
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ainsi. Bon, j'ai intitulé ce. Petite conférence, donc synthèse du modernisme. C'est pour essayer de vous faire comprendre ce qu'est le modernisme, l'esprit moderniste. Donc, première partie, on va expliquer un peu à fond le serment anti-moderniste. Donc, j'ai déjà expliqué la dernière fois, il date de 1910. Hein. C'est le motu proprio sacrum antistitum de Saint Pédis, 1er septembre 1910. Donc, c'est un serment que doivent faire tous les prêtres avant d'être ordonnés, tous les évêques, et avant, je vous l'ai déjà expliqué, tous les professeurs de l'université catholique. Bon. Après, dans la deuxième partie, j'expliquerai une autre encyclique qui est très peu connue, du pape Léon XIII, de 1899. Hein, c'est la condamnation la condamnation de l'américanisme, la lettre Testem benevolentiae au cardinal Gibbons. Bon. En utilisant un livre que je ne connaissais pas, je l'avais dans mes affaires depuis longtemps, un livre extraordinaire du père Maignan, M-A-I-G-N-E-N, de 1902. Donc c'est un livre très intéressant parce que c'est entre le texte, si vous voulez, c'est un texte qui est intermédiaire, si vous voulez, entre les premières condamnations du pape Pie IX, donc condamnation de la liberté de conscience, Quanta Cura, 1864, et les textes de Saint Pédis. Donc c'est antérieur au texte de Saint Pédis, 1899, alors que la condamnation du modernisme par Saint Pédis, c'est 1907. C'est très intéressant de voir que, en lisant justement ce livre du Père Maignan, il a écrit en 1902, donc avant les condamnations de Saint Pédis, on pourrait croire le livre écrit en 2022, pardon, aujourd'hui. Parce que les condamnations de Saint Pédis, de Léon XIII, de l'américanisme, lettre au cardinal Gibbons, c'est exactement la condamnation du modernisme. Comme quoi, on voit très bien, c'est toujours les mêmes bêtises, toujours les mêmes erreurs. C'est pour ça que le terme modernisme est un peu dangereux, parce qu'on a l'impression que c'est des idées modernes. C'est pas du tout moderne, c'est des vieux trucs, des vieilles choses ressassées qui reviennent toujours. Alors, on va voir un petit peu ça pour bien avoir les bases pour se protéger du modernisme. Hein. N'oubliez pas que il faut connaître, avoir une bonne doctrine. S'il y a un bon moyen de se protéger du modernisme, vous savez qu'il y a deux ficelles que le démon utilise. L'erreur, surtout l'erreur intellectuelle, l'erreur philosophique, l'erreur dans l'intelligence et le péché. Donc il faut se protéger contre le démon. C'est deux façons. D'abord, on se protège contre le péché, par la confession, mais on se protège aussi contre l'erreur par l'étude. D'accord ? C'est pour ça lorsque le pape Saint Pédis a voulu condamner le modernisme en 1907, et puis après de nouveau dans ce serment anti-moderniste, un des moyens qu'il donne pour lutter contre le modernisme, c'est l'étude de la philosophie, de la théologie de Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est le saint qu'il faut connaître. Donc, il faut connaître la théologie et la philosophie pour se protéger du modernisme. Alors, on revoit un petit peu ce qu'on a déjà vu. On avait déjà vu le premier paragraphe. Je professe que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être certainement connu et par conséquent aussi démontré la lumière naturelle de la raison par ce qui a été fait, c'est-à-dire par les œuvres visibles de la création comme la cause par les effets. Donc, je vais reprendre un petit peu. Hein. J'utilise toujours ce système quand j'enseigne, c'est-à-dire ce système de la tuile. D'ailleurs, j'explique une chose. Deuxième cours, je reprends ce que j'ai expliqué auparavant rapidement et j'augmente. Puis après, troisième cours, je reprends ce que j'ai expliqué au deuxième cours et on augmente. Vous voyez? Parce que sinon, les gens oublient tout. Donc, il faut reprendre. Voilà. Donc, reprends rapidement ce qu'on a déjà vu. N'oubliez pas, ça c'est très important, Dieu a créé l'intelligence dont l'objet formel est le vrai. Tous les hommes ont une intelligence. D'accord ? Elle est plus ou moins développée. Même un bébé, il a une intelligence. D'accord ? Même un bébé dans le sein de sa mère a une intelligence. Mais il ne peut pas encore l'utiliser. Bon. C'est pour ça qu'on appelle l'âge de raison, à peu près l'âge de 6-7 ans, quand on commence à utiliser son intelligence. Hein ? Donc, tous les hommes ont une intelligence. Donc, tous les hommes ont en eux quelque chose pour comprendre où est le vrai. Pour comprendre ce qui est vrai avec son intelligence, c'est ce qu'on a besoin de la foi. Répondez pas tous en même temps. J'ai déjà expliqué ça la dernière fois.
Ben oui, explique que la foi, c'est...
Bien sûr que non, on n'a pas besoin de la foi. On n'a pas besoin de la foi. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est du domaine surnaturel. Là, on est dans le domaine naturel. Est-ce que quelqu'un peut dire « Ah, moi, j'ai pas la foi, donc je peux pas utiliser mon intelligence pour découvrir le vrai. » Non, monsieur, parce que même si vous avez pas la foi, et vous croyez à je sais pas trop quoi, je sais pas trop qui, vous avez une intelligence. Donc, toute personne qui a une intelligence est capable de découvrir l'existence de Dieu. Ceux qui disent qu'il faut la foi pour découvrir l'existence de Dieu, c'est ce qu'on appelle, vous rappelez le nom de cette hérésie ?
Le
fidéisme. Le fidéisme, c'est ça. Bon, c'est un peu la philosophie de Malebranche. Le fidéisme est une hérésie que j'ai expliqué la dernière fois, je ne vais pas y revenir, de ceux qui pensent qu'il faut la foi pour prouver l'existence de Dieu. Non. On peut prouver l'existence de Dieu simplement par l'usage de notre raison. Bon. On peut prouver qu'est-ce qu'on peut faire avec la raison. On peut prouver l'existence de Dieu, l'existence d'un Dieu créateur de toutes choses, l'existence d'un Dieu qui récompense les bons, qui punit les méchants. On peut prouver l'existence d'une âme. Bon, est-ce qu'on peut prouver l'existence de la Sainte Trinité avec la foi, avec la nature pure? Non, c'est impossible. Est-ce que vous pouvez prouver l'incarnation et la rédemption simplement par l'usage naturel de votre intelligence? Non, parce que là, il faut quelque chose qui se rajoute. C'est quelque chose qui se rajoute, c'est la foi. Donc la foi se rajoute à quelque chose qui est préexistant. J'ai expliqué ça la dernière fois. Donc, s'il n'y a pas quelque chose de préexistant, on peut rien faire avec la foi. Saint Thomas d'Aquin explique ça avec une phrase très connue. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. La grâce vient sur la nature. Ce que j'ai un peu expliqué au sermon d'aujourd'hui, rappelez-vous les erreurs dont j'ai parlé aujourd'hui au sermon. Donc, ceux qui disent que la grâce est naturelle à l'homme. La grâce n'est pas naturelle à l'homme. Est-ce que l'intelligence est naturelle à l'homme? Oui. Non, pourquoi? Parce que l'intelligence fait partie de notre nature humaine. Tous les hommes ont un corps et une âme. Si vous avez une âme, il y a des puissances dans cette âme. L'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible. L'intelligence pour découvrir le vrai, savoir où c'est. La volonté pour y arriver, c'est bien joli, ça va, le vrai c'est là-haut. Oui, puis je reste là tranquillement. Ben non, parce qu'il faut l'atteindre le vrai. Ça c'est la volonté qui va embrayer. Puis ensuite, l'irascible pour lutter contre les obstacles, et le concupiscible pour garder ce désir du vrai. D'accord ? Bon. Donc, qu'est-ce que dit Saint Pilice ? Il est de foi, dit-il, qu'on peut donc prouver l'existence de Dieu par la lumière naturelle de la raison. Hein ? Donc, si vous voulez, il y a trois lumières. Il y a la lumière naturelle de la raison, qui est la lumière de l'intelligence. Tous les hommes ont une intelligence. Il y en a qui refusent de l'utiliser, c'est autre chose. Bon. Un gars qui passe 10 heures par jour, un adolescent qui passe 10 ou 15 heures par jour sur un petit jeu vidéo, bon, son intelligence, c'est un peu de la bouillie pour chat. Mais il en a quand même encore une, c'est plus utilisé, mais elle est toujours là. D'accord ? Donc ça, c'est la lumière naturelle. Au-dessus de cette lumière naturelle, il y a la lumière de la grâce. Niveau au-dessus. La lumière de la grâce, c'est surnaturel. Que ça veut dire surnaturel ? Au-dessus de la nature. Et au-dessus, il y a encore une troisième lumière. La troisième lumière, c'est la lumière de la gloire. La lumière de la gloire, est-ce qu'on peut l'avoir ici-bas ? Non, c'est la lumière du paradis. Bon. Est-ce qu'au paradis, on aura besoin de la foi ?
Non.
Non, pourquoi ? La foi, elle fait croire en quelque chose ou quelqu'un qu'on ne voit pas. Une fois qu'on sera au paradis, on n'aura plus besoin de la foi. Est-ce qu'on aura besoin de l'espérance ?
Non.
Non plus, parce qu'on n'a pas besoin d'espérer en quelqu'un qu'on voit. Par contre, rappelez-vous ces textes d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche de la quinquagésime, c'était l'épître d'aujourd'hui, j'ai pas le temps d'en parler parce qu'il est tellement important cet épître, il faudrait en parler pendant des heures. Saint Paul explique très bien qu'il y a la foi, l'espérance et la charité, et la plus grande des trois, c'est la charité. La foi, l'espérance disparaîtront au ciel, mais pas la charité. La charité c'est quoi ? C'est l'amour de Dieu. Donc au ciel, est-ce qu'on aura l'amour de Dieu ? Ben évidemment, On n'aura plus besoin de la foi, on n'a plus besoin de la charité. Est-ce qu'ici-bas on peut avoir la foi? Est-ce qu'on peut avoir ici-bas la charité sans la foi et l'espérance? Non, on ne peut pas. On ne peut pas avoir la charité, je parle de la vertu théologale de charité. Hein. Est-ce qu'on peut avoir la vertu théologale de charité sans la foi et l'espérance? Non, on ne peut pas aimer Dieu si on ne croit pas en lui. D'accord? Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'avez pas l'espérance d'aller au ciel. D'accord? Donc, je crois en Dieu, foi, j'espère aller au ciel, espérance, et pour cela, j'aime le bon Dieu, et donc je suis la loi des bons dieux par la vertu de charité. Donc, qu'est-ce que dit Saint Bédis? Saint Bédis dit bien que on peut démontrer à la lumière naturelle de la raison que Dieu est principe et fin de toute chose. C'est ce que j'expliquais la dernière fois. Donc, il y a un ordre dans la création et à cause de cet ordre, on peut remonter à l'auteur de l'ordre. Hein? Même un bandit comme Voltaire l'avait vu, il dit il ne peut pas y avoir une montre sans horloger. S'il y a une montre, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a faite. Bon, donc je ne reviens pas là-dessus, on a déjà expliqué tout ça. Deuxième point. J'admets et je reconnais les preuves, ça c'est le texte de Saint-Pédis, les preuves extérieures de la révélation. C'est-à-dire les faits divins, particulièrement les miracles et les prophéties, comme des signes très certains de l'origine divine de la religion chrétienne. Et je tiens qu'ils sont tout à fait adaptés à l'intelligence de tous les temps, de tous les hommes, même ceux d'aujourd'hui. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, Saint-Pédis a parlé de la révélation. Bon. Très important qu'on pense ce que c'est que la révélation. Donc, par l'usage naturel de mon intelligence, je peux découvrir le vrai, au moins en partie. Encore une fois, je peux prouver l'existence de Dieu, mais je ne peux pas prouver l'existence de la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption, parce que là, on est dans un domaine complètement surnaturel. Bon. Donc, pour ôter ce voile d'ignorance, qui est une conséquence du péché originel, rappelez-vous les conséquences du péché originel, c'est l'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Bon. À cause de cette ignorance, le bon Dieu va enlever un voile et va nous donner la révélation. Révélation, en latin, ça veut dire enlever, velum, c'est le voile. Donc, en quelque sorte, le bon Dieu va nous enlever une espèce de voile qui est devant nos yeux, qui nous empêche de voir la réalité. Donc, par la révélation, Dieu va amener quelque chose d'autre qui est surnaturel. La révélation, elle a été annoncée dans l'Ancien Testament par les prophéties. C'est que les prophéties étaient très précises. Les prophéties, une prophétie par exemple qui dit que le Messie aura les mains et les pieds percés. Que pendant que le Messie mourra sur la croix, pour nous, les soldats qui gardaient le Messie seraient en train de tirer au sort sa tunique. C'est des détails qui ont été écrits 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, un millier d'années, un texte écrit par David, sous la dictée du Saint-Esprit, s'est révélé, qui dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Il y a des textes extrêmement anciens qui disent qu'une vierge enfantera. Bon. Et il y a des textes très, très anciens qui vont dire que le Messie va naître à Bethléem. Vous avez des textes d'Isaïe qui vont annoncer l'arrivée des rois pour venir apporter l'or, l'encens et la myrrhe. Ces textes sont extrêmement anciens. Ils datent de siècles et de siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Donc, pourquoi ces textes sont tellement importants? Parce que, justement, Dieu, qui connaît notre difficulté, si nous avions une intelligence qui n'était pas viciée par le monde moderne, par les idées fausses, rien, on pourrait arriver à être très proche du bon Dieu. Bon. C'est pour cela que, strictement parlant, l'intelligence, par exemple, d'Adam et Ève était largement supérieure à la nôtre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore le vice de l'intelligence. Maintenant, nous, on a l'ignorance, on a la malice, on a la faiblesse, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil. Et tout ça, on va loin. C'est très difficile, justement, à cause de ça. Donc, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, qui connaît notre faiblesse, nous donne la révélation. La révélation, c'est pour enlever le voile. Il passe du domaine naturel au domaine surnaturel. Bon, la révélation, elle va s'achever comment? Par l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par sa présence sur la terre, va terminer d'enlever ce voile qui avait été déjà en partie enlevé par les prophéties de l'Ancien Testament. Pour cela, au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a un voile qui se déchire. Lequel? Le voile du temple. Le voile du temple se déchire en deux. Pourquoi ? Pour bien montrer que c'est la fin de l'Ancien Testament, début du Nouveau Testament. Vous voyez ? Bon. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, Dieu, dans sa miséricorde, va nous donner la révélation. Seulement, attention, il ne faut pas oublier une chose. La révélation, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est amené par notre Seigneur Jésus-Christ. La révélation, elle est close avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas vous ou moi qui pouvons ajouter quelque chose à la révélation. C'est pour ça que l'Église catholique enseigne que la révélation est close à la mort du dernier des apôtres, Saint Jean. Et donc, le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire garder le dépôt de la foi ? Garder le dépôt de la foi, ça veut dire garder le dépôt de la révélation. Donc il n'y a pas une révélation qui est continuée par les apôtres après notre Seigneur Jésus-Christ. Non. Le rôle des apôtres, le rôle du pape, le rôle des évêques, le rôle des prêtres, c'est de garder le dépôt de la foi. Faut faire attention, parce que vous avez dû entendre parler de tous ces trucs-là. Maintenant, avec le modernisme, une des erreurs du modernisme, on verra ça plus tard, c'est de le faire croire que la révélation est incomplète. Et qu'il y a encore des compléments de la révélation. D'entendre parler de l'ésotérisme chrétien, l'ésotérisme d'aujourd'hui, qui laisse croire qu'il y a tout un, que l'Église catholique a voulu cacher et a réservé à certaines personnes une connaissance qui n'est pas générale, ce qu'on appelle la gnose. Si c'est un gnostique, c'est ça. Certaines personnes ont reçu certaines révélations, mais chut, c'est secret, il ne faut pas dire tout ça. Il ne faut pas dire, pas en parler. Ton Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fait les choses en secret. Donc, il enseigne aux apôtres. Mais le rôle des apôtres, c'était d'expliquer les choses. Bon, alors, donc, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner la révélation. La révélation n'est pas quelque chose qui va s'améliorer au cours des temps. Ça, attention, parce que c'est une idée très, très répandue. Qu'au cours des temps, la vérité va se développer de plus en plus. C'est complètement faux. Puisque à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans, c'est la fin de la révélation. Le rôle du pape, c'est garder la révélation. Le dépôt de la foi. Donc, il ne faut pas imaginer que la révolution va lentement, lentement s'organiser. Les modernistes disent, par exemple, que tout évolue. Une des fondations du modernisme, c'est l'évolutionnisme. Que les choses évoluent lentement, que petit à petit, l'Église a pris conscience de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas au courant. Il y a des modernistes qui vont jusqu'à dire, accrochez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même ne savait pas qu'il était Dieu. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, il a découvert petit à petit qu'il était Dieu. Et l'Église catholique, au début, ne savait pas du tout que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Alors, l'Église catholique, petit à petit, a fait progresser la révélation de telle façon que petit à petit, on a découvert des tas de choses. Alors, l'Église a petit à petit expliqué les évangiles. Et puis, le dernier évangile qui a été écrit, c'est l'évangile de Saint Jean, qui a été écrit au 2e ou 3e siècle.
Ça ne serait pas Dieu, du coup.
Eh bien, exactement. Or, l'Église enseigne que l'évangile de Saint Jean a été écrit. Il était terminé d'écrire avant la mort de Saint-Jean, mais évidemment, et qu'à la mort de Saint-Jean, c'est fini, c'est terminé, puisque c'est le dernier apôtre qui est mort. Donc ça, c'est très important, à ne pas se laisser contaminer par ces idées. Elles sont extrêmement répandues. Vous voyez, c'est le gnostisme, le gnosticisme, je ne sais pas comment dire en français,
le gnosticisme.
Oui. Le gnosticisme, c'est ça. L'idée de la gnose, c'est que Dieu n'a pas révélé ce dont on avait besoin pour se sauver à tout le monde, simplement à certains privilégiés. Et que l'Église a jalousement conservé ces choses-là. Mais c'est complètement faux. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a envoyé des prêtres, des apôtres, des évêques, aller prêcher, baptiser. Il n'a pas dit, attention, vous ne parlez pas de ça et ça et ça et ça, parce que ça, c'est trop compliqué pour eux. Ça, c'est pour vous, simplement, il ne faut pas le dire aux gens. Non. Oui. Alors, c'est ça la révélation. Il faut bien comprendre. La révélation, ce n'est pas quelque chose qui est qui s'améliore au fur et à mesure du temps. Ça, c'est du pur modernisme. La révélation n'a pas besoin de s'améliorer. On n'a pas besoin d'adapter l'enseignement de l'Église catholique au monde moderne. Ça, encore une fois, c'est une idée totalement fausse de Vatican II. Il faut adapter au monde moderne. Pas besoin d'adapter quoi que ce soit. Ah, mais on ne peut pas parler aux gens d'aujourd'hui comme aux gens du Moyen-Âge. Où est-ce que vous trouvez ça, vous ? Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais demandé d'adapter. Puisque la révolution est close à la mort de Saint Jean, il n'y a pas besoin d'adapter. L'idée même d'adapter la révélation, le message de la révélation au monde moderne dans lequel on est, c'est de l'hérésie pure et simple. Et ça, les faux papes, là, depuis la mort du pape XII, ils n'arrêtent pas de parler de ça à longueur de journée. Il faut adapter, il faut adapter, il faut adapter. Les choses changent. Vous voyez ? Alors, Vous avez des gens qui vont vous dire, moi j'ai connu des modernistes qui m'ont sorti. Vous comprenez, l'Église ne savait pas très bien comment enseigner l'Évangile au Moyen-Âge. Quand on dit au Moyen-Âge, les gens étaient un peu bêtes, vous comprenez, avec un petit cerveau, au Moyen-Âge, les gens n'étaient pas très intelligents. Aujourd'hui, c'est l'âge des ordinateurs et des mirages, alors vous comprenez, aujourd'hui, on est super intelligent. En fait, c'est complètement l'inverse. Hein? Quand on étudie un petit peu, vous voulez une preuve, prenez la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Alors ça, c'est le Moyen-Âge, plein dedans. Il est mort en 1274, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, au début de la somme, un petit avertissement, j'ai écrit la somme, pour les débutants. Donc quand j'ai dit ça, ça m'a mis le moral à zéro pendant je ne sais pas combien de mois. J'ai dit bon sang de bonsoir. Si saint Thomas a écrit pour les débutants, voilà, on roule comme ça. Déjà qu'il nous faut des années d'études au séminaire pour essayer de comprendre à peu près la somme théologique de saint Thomas, il a écrit pour des débutants. Parce que les gens du Moyen-Âge étaient bien plus intelligents que nous. Pourquoi? Est-ce qu'ils avaient le sens du réel? Ils avaient deux pieds sur la terre. Vous ce que j'ai déjà expliqué, vous avez sans doute déjà oublié, que la philosophie catholique, c'est une philosophie réaliste. On est basé, on a les deux pieds sur la terre. D'accord? On n'a pas les pieds dans les nuages, les deux pieds sur la terre. Donc, le réel. Bon. Donc, on essaie de nous faire croire, là c'est le monde moderne, qu'il y a une évolution vers le haut, qu'on devient de plus en plus intelligent. Et que les jeunes modernes sont bien plus intelligents que nos anciens. C'est l'inverse. Les gens anciens étaient bien plus intelligents que nous. Parce qu'ils n'étaient pas l'esprit déformé par l'Internet, par les écrans, par tous ces trucs-là. C'est vrai. Oui. Et ça, il faut bien se mettre dans la tête. Parce que c'est très difficile. Les gens sont persuadés, on vous a raconté, vous avez vu ces petits croquis, un dessin peut faire énormément de dégâts. Ces petits dessins qu'il y a dans tous les manuels de biologie. Vous voyez, on part d'un homme de Cro-Magnon qui tombe comme ça. Puis lentement, l'homme se redresse, et puis on arrive à avoir le costume cravate et qui sort de polytechnique. Et vous voyez, l'évolution. En fait, c'est l'inverse. Il faudrait faire un dessin avec l'homme de. Moi, je ferai un dessin, si je dois un dessin, en partant d'un polytechnicien qui est tout courbé comme ça, et puis en finissant avec Saint Thomas d'Aquin au 3e siècle. Et on voit très bien. Que, c'est pour ça que la mort de saint Thomas d'Aquin en 1274 correspond au plus haut niveau de la chrétienté. Et ce n'est pas simplement une correspondance au plus haut niveau de la chrétienté, c'est aussi la correspondance avec le plus haut niveau de l'usage de l'intelligence humaine. L'usage de l'intelligence humaine, on n'a jamais fait mieux. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que c'est pour ça que l'Église enseigne que la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin sont la philosophie et la théologie de l'Église. Et que saint Thomas et que saint Pie X, dans ses conseils pour lutter contre le modernisme, indique la restauration de la philosophie thomiste et la théologie thomiste. Ça a déjà été commencé par le pape Léon XIII. Hein? Donc, la révélation, c'est ça. Donc, n'imaginez pas que la révélation, c'est quelque chose qui doit s'adapter au monde moderne. Il n'y a pas besoin d'adapter l'Église au monde moderne. C'est le monde moderne qui s'adapte à l'Église. Pas besoin de changer la doctrine de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait un seul Dieu en trois personnes. Aujourd'hui, il y a toujours un seul Dieu en trois personnes, et dans 10 000 ans, il y aura toujours un seul Dieu en trois personnes. Au début des histoires de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Il est toujours Dieu, et dans 10 000 ans, il sera toujours Dieu. Dans 10 000 ans, les Attali, les Soros et tous ces imbéciles modernes, ils ont tous disparu, ils sont, je ne sais pas trop où.
Espéro.
Hein? Bon. Mais le témoignage de l'Église catholique n'a pas changé. C'est pour cela que l'Église catholique appelle la philosophie de saint Thomas d'Aquin la philosophia pérennis. Ça veut dire quoi, pérennis ? Éternelle. La philosophie éternelle. Il n'y a pas besoin d'adapter. Mettez-vous dans la tête qu'il n'y a pas besoin d'adapter l'Évangile au monde moderne. C'est le monde moderne qui doit s'adapter à l'Évangile. Et si le monde moderne ne veut pas s'adapter à l'Évangile, on pillera tous. C'est comme ça. Ça plaît ou ça ne plaît pas ? Ton Seigneur Jésus-Christ l'a dit, allez prêcher, baptiser. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Ah, mais c'est un manque de charité de la part de ton Seigneur, tu parles. Il savait très bien ce qu'il faisait. Vous voyez ? Alors, comment notre Seigneur va prouver sa divinité ? Ici, c'est ce qu'explique saint Thomas, Saint Pie X, qu'est-ce qu'il dit ? Je reprends le texte. Donc, je reconnais les preuves extérieures de la révélation, les faits divins, surtout les miracles et les prophéties. Prophétie, j'ai déjà expliqué, c'est toutes les choses qui avaient été annoncées par les prophètes. Vous connaissez les noms des plus grands prophètes, il y a les 12 petits prophètes, il y a les grands prophètes comme Ézéchiel, Daniel, même des patriarches, des grands patriarches, surtout c'était aussi un peu prophète, hein. Il y a des prophéties extraordinaires, déjà c'est Isaïe, chez Jérémie, chez Daniel, etc. Donc vous avez toutes ces prophéties qui datent de plusieurs milliers d'années, qui annoncent l'arrivée du Messie. Bon. Et ça s'est préparé, ça s'est fait lentement. Bon. C'est-à-dire, mais pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas apparu dans la chair autant d'Adam et Ève? Ça aurait évité bien les problèmes quand même. Bon. Ben, ça, Thomas explique, parce qu'il faut un certain temps pour que l'homme, qui est très orgueilleux, reconnaisse qu'il a besoin du Messie. Donc il a attendu. Il a attendu. Bon. Il a attendu, l'arrivée du peuple romain. Pourquoi? Parce que les Romains allaient pouvoir diffuser le christianisme avec leur conversion dans le monde entier. Et notre Seigneur Jésus-Christ va donc prouver sa divinité avec les prophéties qui ont été écrites des siècles et des siècles avant. D'accord? Les premiers livres qui vont annoncer notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, c'est Moïse, qui ont été écrits des millénaires, plusieurs centaines d'années avant notre Seigneur. D'accord? Bon, on dit que c'est Moïse qui a écrit les Pentateuques. Les Pentateuques, c'est les cinq premiers livres de la Genèse. Le roi David a écrit, par exemple, les psaumes 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Donc, il y a les prophéties et les miracles. Notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas contenté de remplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il a rempli chaque prophétie de l'Ancien Testament. Bon. Chaque prophétie de l'Ancien Testament. Bon. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à sa mort sur la croix. Il ne s'est pas contenté de ça. Il a en plus fait des miracles. Il a fait des miracles. Bon. Alors, les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, un miracle par définition, ne peut être fait que par la puissance divine. Ça dépasse l'ordre naturel. Bon, il y a différentes sortes de miracles, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça c'est de l'apologétique, c'est autre chose, c'est pas le but du cours, on verra ça plus tard. Donc Dieu a fait des miracles, notre Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles. Bon. Est-ce que en soi, il est nécessaire pour un représentant de Dieu d'être en état de grâce pour faire des miracles? Utilisez votre intelligence avant de répondre, vous pouvez dire une bêtise.
Pour répéter la question.
Est-ce qu'il est nécessaire d'être en état de grâce pour faire un miracle?
Non. Ah, pas du tout.
La preuve, Judas. Est-ce que Judas fait des miracles?
Oui.
Oui, parce que Dieu avait donné, notre Seigneur avait donné le don des miracles à tous ses apôtres, y compris Judas. Donc Judas, c'est pas dans l'évangile, mais Judas a fait des miracles comme les autres. D'accord? Donc c'est pas parce que quelqu'un fait des miracles en soi qu'il est saint. Donc, les miracles sont une manifestation. D'accord? Une manifestation de Dieu. Seul Dieu peut faire des miracles. Mais Dieu peut utiliser des instruments faibles. Je vais vous expliquer avec un exemple. Est-ce qu'il est nécessaire d'être en état de grâce pour un prêtre qui consacre la Sainte Eucharistie pour que notre Seigneur Jésus-Christ descende sur l'autel?
Non, il y a une juridiction.
Il n'y a pas besoin de juridiction.
Non, parce qu'il y a
besoin du pouvoir d'ordre.
Ouais, voilà.
Non, pas pareil. Donc, un prêtre en état de péché mortel.
Oui.
Bon. Il a un péché mortel jusqu'au cou. Il prend un bout de pain. Il prononce les paroles de la consécration avec l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Ceci est mon corps et la présence réelle.
Oui.
Bon. Est-ce que ça veut dire pour autant que le prêtre est en état de grâce? Non. Bon, c'est un péché épouvantable pour un prêtre de célébrer la messe, c'est un tel péché mortel, c'est autre chose. D'accord? Mais le prêtre, même s'il est en état de péché mortel, fait le miracle, parce que c'en est un, le miracle de la transsubstantiation, même s'il ne se voit pas, qui transforme la substance du pain en substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, la substance du vin en substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il est en état de péché mortel, parce que c'est Dieu qui utilise le prêtre comme un instrument. D'accord? Donc, alors, dans certains cas, l'Église peut demander des miracles après la mort d'une personne comme confirmation de la sainteté de la personne. Il y a des miracles qui sont demandés pour les béatifications, pour les canonisations. Bon. Alors, c'est Dieu qui intervient directement. D'accord? Mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles, ici-bas, que ça veut dire ipso facto qu'il est un saint. D'accord? Deuxième question, est-il possible d'avoir des vrais miracles en dehors de l'Église catholique?
Non.
Impossible.
Non,
c'est impossible. Ouais. C'est pas possible. Il peut y avoir des signes. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Surtout aujourd'hui, parce que vous avez parfois des trucs qui sont durs à encaisser. Hein. Prenez par exemple une fausse église comme l'église orthodoxe. Une fausse église. Vous rentrez dans une église orthodoxe, il y a présence réelle. Tout Seigneur est dans le tabernacle.
C'est ça.
Ah, c'est Dieu des orthodoxes. Non, c'est le même que nous. De ce côté-là, dans le tabernacle d'une église orthodoxe, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, le même qui est descendu sur l'autel il y a une demi-heure pendant la messe. Le même. Les sacrements des orthodoxes sont tous valides, sauf un sacrement que les orthodoxes donnent qui est absolument invalide. Lequel ?
Le mariage.
Mariage. Pourquoi ? Parce que les orthodoxes n'acceptent pas l'indissolubilité du mariage. On peut se marier 4 fois ou 3 fois dans le monde. Ça dépend. En général, c'est 3 mariages.
Ils acceptent que le divorce, je dirais.
Donc les orthodoxes acceptent 3 divorces en général.
Ah bon.
3 divorces. Donc le simple fait qu'ils acceptent 3 divorces fait qu'ils n'acceptent pas évidemment l'indissolubilité du mariage, et donc leurs mariages sont absolument invalides. Mais tous les autres sacrements sont valides. Bon. À tel point, si vous voulez, c'est limite. Mais imaginez que vous avez une vieille grand-mère en train de mourir qui demande le sacrement d'extrême onction avant de mourir. Il n'y a pas de prêtre catholique dans le coin. Strictement parlant, un prêtre orthodoxe pourrait venir donner l'extrême onction en cas d'extrême urgence de ce genre. Ce serait valide.
Si on se trouve dans un pays où il n'y a que des églises orthodoxes, on peut se recueillir là. Ouais.
Alors, attention, on n'a pas le droit d'aller de façon normale dans une église orthodoxe parce que c'est une fausse église.
D'accord.
Bon, ça, c'est 2 choses différentes. Alors, on rentre dans un sac de... C'est pour vous expliquer que parfois, c'est compliqué d'arriver à y voir clair parce que les orthodoxes ont des saints orthodoxes qui ont eu naturellement une certaine vie admirable, une vie de pénitentielle, une vie de prière, des ermites par exemple, ils ont beaucoup d'ermites parce qu'il y a beaucoup d'ermitages dans l'église orthodoxe, qui peuvent être des vies extraordinaires. Vous avez des pasteurs protestants qui ont été martyrs, un petit M si vous voulez, persécutés par les communistes dans certains régimes communistes, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'église protestante est une véritable église. C'est pareil pour l'église orthodoxe. Donc le véritable miracle ne peut exister que dans l'église catholique. D'accord ? Donc c'est ce que dit ici Saint Pédis. Donc, je répète la phrase. Je reconnais les preuves extérieures de la révélation. C'est-à-dire Dieu ne s'est pas contenté de nous révéler son Fils. Il aussi donne les miracles et les prophéties comme des signes très certains de l'origine divine de la religion chrétienne. D'accord ? Bon. Et je tiens qu'ils sont tout à fait adaptés à l'intelligence de tous les temps, de tous les hommes, même ceux d'aujourd'hui. Vous voyez ? Parce que quand on explique certains des miracles, il y en a qui sont extraordinaires, des miracles. Il y a tous les grands miracles connus. Il y a aussi toute une série d'autres miracles qui sont moins connus. Je suis allé par exemple il y a quelques jours, je suis allé avec ma vieille maman à Rocamadour. Bon, Rocamadour, un lieu magnifique, un grand lieu de pèlerinage de France, là où était enterré Saint Zachée, qui était l'époux de Sainte Véronique, donc qui est resté à Rocamadour, le rocher de l'homme qui aimait Dieu, Saint Amator ou Saint Amadour ou Saint Zachée, c'est la même personne. Bon, il y a des miracles extraordinaires. Il y a des miracles extraordinaires qui sont parfois très peu connus. Bon, par exemple, lorsque Roland à Roncevaux a été trahi dans l'arrière-garde de Charlemagne, donc on est au 9e siècle, je crois, fin 8e, début 9e siècle, qu'il a voulu empêcher que son épée de chevalier tombe aux mains des hérétiques et a essayé de la briser. Il n'a pas pu. Parce que dans les pommeaux des épées des chevaliers, il y avait des reliques, en général les reliques de la Passion, les reliques de martyrs. Donc il a essayé de la briser, il n'a pas pu. Donc il a lancé dans un précipice le plus loin possible, et Dieu a fait un miracle, envoyé un ange qui a pris l'épée du Randal et qui est allé se ficher juste au-dessus du tombeau de Saint Zachée à Rocamadour, il y est toujours. Les gens du coin qui croyaient au miracle, ils ont dit il ne faudrait pas que le bon Dieu fasse un deuxième miracle et la promener ailleurs, donc ils l'ont vite attaché qu'une chaîne. Bon. Mais elle est toujours là. Alors quand vous expliquez ça aux modernes, oh, c'est de légende, c'est ridicule, ça ne va pas, vous croyez que le bon Dieu va envoyer un ange pour aller faire traverser gratuitement, sans passer par un avion, pas un hélicoptère, une épée depuis les Pyrénées jusque-là, ça ne va pas, c'est complètement fou. Bon, c'est des légendes. Mais ce n'est pas des légendes du tout. Ça, c'est un miracle, tout simplement. Et des miracles comme ça, il y en a plein.
Le doigt de saint Thomas.
Voilà, il y a des miracles partout. Il y a des très grands miracles qui sont très connus et des petits miracles qui sont, je dirais, moins connus. Et Dieu va multiplier ces miracles. Ces miracles, par exemple, juste à côté de chez moi, là, j'habite à Albi, il y a Notre-Dame de la Drèche.
Bon. Vous avez dit ?
Notre-Dame de la Drèche.
D'accord.
C'est le vieux français, la Drèche, c'est la droite, ça veut dire la droite en vieux français, la droite du Tarn. C'est très important, historiquement parlant, parce que c'est dans l'église de Notre-Dame de la Drèche, qui est une église du XIIe siècle, que la Très Sainte Vierge Marie est apparue à Saint-Dominique pour lui donner le rosaire, rien que ça. C'est quand même un lieu historique. Notre-Dame de la Drèche, par exemple, il y a eu un miracle extraordinaire au XIIe siècle. Bon, c'est à l'échelon des miracles, des petits miracles. Les enfants jouaient dehors un soir, et puis ils voient une lumière dans le bois, et ils vont voir dans le bois qu'est-ce qu'ils trouvent, une statue de la Sainte Vierge. Magnifique. Et ils vont prévenir le curé. Ah, oh, on va trouver une statue dans un arbre. Bon, le curé vient voir, tiens, elle est jolie cette statue. Je ne pose pas de questions, il prend la statue, on la met dans l'église. Il la met dans l'église, dans le village. Et puis le lendemain, il vient rouvrir l'église, paf, la statue est disparue. Ah, zut. Alors les enfants, ils disent, ah, la statue, elle est retournée dans l'arbre. Bon, alors le curé n'est pas content, il revoit dans l'arbre, reprend sa statue et remet la statue dans l'église. Le lendemain, la statue est encore disparue. Alors il a fait le coup comme ça plusieurs fois. Alors le curé a parlé à l'évêque, il a dit, manifestement, je crois que la Sainte Vierge va retourner dans l'arbre. Hein. Et donc ils ont acheté le terrain, d'ailleurs le propriétaire de ce petit bois a fait don pour construire la première église, qui est le sanctuaire de la Drèche du XIIIe siècle. Bon. Et la statue, si vous allez à Drèche, la statue qui est au-dessus de l'hôtel, il y en a deux, il y en a une qui est au-dessus de l'hôtel, une magnifique statue en bois polychrome, et la statue originale, qui date, on ne sait pas de quand elle date en fait, mais elle a été trouvée au XIIe siècle. Alors c'est un miracle en soi qu'une statue puisse disparaître toute seule, portée par les anges, d'un lieu à un autre lieu, c'est déjà un miracle. Bon, maintenant, est-ce que la statue en elle-même a été faite par les anges? Ça, on n'en sait rien, l'Église ne se prononce pas là-dessus, mais des miracles comme ça, il y en a plein. À Montserrat, par exemple, c'est la même chose. Montserrat, c'est le lieu où Saint-Ignace s'est converti en Catalogne, près de Barcelone, c'est exactement la même chose. Les paysans au Moyen-Âge ont entendu le soir, ils travaillaient dans leur champ, ils ont entendu des anges qui chantaient au sommet de la montagne, ils ont vu des flambeaux lumineux qui au sommet de la montagne, ils sont allés voir ce qui se passait, et puis ils suivent les concerts angéliques, et puis ils tombent sur une grotte qu'ils ne connaissaient pas, dans la grotte se trouvait une magnifique statue de la Sainte Vierge. Alors ils préviennent l'évêque, on va la redescendre dans la vallée. Donc ils la prennent sur le dos, plusieurs. Enfin, brancard, il commence à transporter la statue de la Sainte Vierge. Au bout de 200-300 mètres, sur la crête, elle devient très lourde, impossible de la porter. Elle devient lourde comme le plomb. Miracle. L'évêque a compris qu'il fallait construire son église. On a construit l'église de Montserrat, une merveille de l'art roman. Alors, de quand date cette statue? On n'en sait strictement rien. Personne ne peut dire d'où ça vient. Est-ce qu'elle a été faite par les anges? On n'en sait rien. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a eu miracle. Parce qu'une statue ne prend pas un poids très lourd comme ça, de façon naturelle. D'accord ? Donc le bon Dieu prouve sa divinité par les miracles et par l'application des prophéties. Bon. Ça, c'est très important. Il est deux fois que, justement, le bon Dieu, si vous voulez, va utiliser ces choses-là pour les miracles et les prophéties. Alors, attention, à ne pas tout mélanger. Il y a des miracles qui sont reconnus par l'Église, qui sont des vrais miracles. Et il y a des prodiges qui ne sont pas forcément reconnus par l'Église. Les prodiges sont en général pas reconnus par l'Église, sauf s'ils sont en fait des véritables miracles. Les prodiges, c'est des imitations de miracles faits par les démons. C'est jamais reconnu par l'Église. Bon. Et il peut y avoir des signes. Le démon est le singe de Dieu. Et le démon peut faire des choses bizarres. Il y a eu des apparitions, par exemple, qui n'ont jamais été reconnues par l'Église, avec, par exemple, des gens qui prétendaient avoir des apparitions à la Sainte Vierge, qui descendaient un escalier à toute vitesse en marche arrière. Bon, je ne sais pas si vous êtes capable de faire ça, mais moi, j'arrive pas. Hein. Bon, des choses comme ça, car à un moment donné, il y a un truc comme ça. Hein. Bon, et ça n'a jamais été reconnu par l'Église. Bon, en général, quand il y a un vrai miracle, c'est toujours simple. Il n'y a pas de choses extraordinaires, et se compter que le bon Dieu va faire du miracle toutes les 5 minutes. Hein. Le bon Dieu nous a donné la foi catholique, hein. Les miracles, c'est des moyens d'augmenter notre foi, d'accord ? Donc, la foi est la base de tout. Dieu prouve la foi catholique, prouve les messages de sa révélation par l'accomplissement des prophéties et des miracles. D'accord ? Alors, prenez un autre miracle, par exemple, que j'aime bien expliquer. J'ai plus l'état, j'oublie toujours les dates. Le miracle comment ça s'appelle ? Oh, j'ai plus de mémoire, moi. Non, le miracle en Italie de la statue de la maison de Lorette. Notre-Dame de Lorette. Ah, c'est pas mal aussi, ça. Bon, les musulmans arrivent en Terre Sainte. Bon, ça n'a pas plu beaucoup, bon Dieu. Donc, il envoie les anges chercher la maison dans laquelle Dieu a fait le mystère de l'incarnation. Là où l'ange Gabriel est apparu être sa Vierge Marie pour lui demander de venir la mère de Dieu, à Nazareth. Les anges arrivent, prennent la maison, la soulèvent et la transportent d'abord en Dalmatie, je crois que c'était. C'est en Yougoslavie actuelle, alors je ne suis pas sûr, la géographie, ce n'est pas mon truc. Ensuite, elle est restée là pendant quelques temps, très court. Ensuite, elle a été transportée par les anges dans le sud de l'Italie, après au nord de l'Italie, à Lorette. Bon. Alors, les Italiens de Lorette, ils ont dit, ouh, il faut qu'elle reste ici. Donc, ils ont envie de construire une église au-dessus pour qu'elle ne se sauve pas. Elle est restée là. Bon. Alors, les modernes ont dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'anges qui promettent la maison d'un divisant Paul, c'est des inventions, c'est des légendes. Alors, l'église a dit, ben, on va vérifier. On a commencé par vérifier la taille des pierres, les pollens qui sont sur les pierres, à Lorette, en Italie, puis on s'est aperçu, tiens, c'est bizarre, quand même, les pollens, c'est tous des pollens de Palestine. Et puis on est allé vérifier, on va quand même aller un peu vérifier, c'est les amis de l'église qui ont fait ça, on va aller vérifier la taille des fondations de la maison de Lorette, parce qu'on sait encore où elle était, à Nazareth, à tous les coups, c'est une fosse. Puis on vérifie, au millimètre près, c'est embêtant, ça tombe pile. Et puis les pierres, c'est les mêmes pierres qui étaient utilisées pour les maisons là-bas. Vous voyez, ça c'est des miracles. Qui est-ce qu'on parle ? Très peu de gens. Quand on pense que Dieu n'a pas voulu que la maison dans laquelle il s'est fait chair, puisque l'incarnation, c'est à ce moment-là, c'est au moment précis, la Sainte Vierge Marie a dit à l'ange Gabriel, qu'il en soit fait en moi selon votre parole, c'est là où Dieu s'est fait chair, et il n'a pas voulu que cette maison tombe entre les mains des musulmans. Ah, mais c'est pas très œcuménique ça. Non, c'est pas œcuménique du tout. Okay. Mais c'est pour ça que c'est très important ce point auquel fait référence ici Saint Pilice. Donc, on prouve l'origine divine de la religion chrétienne par les miracles et les prophéties, premier point. Deuxième point, ces miracles sont adapté à l'intelligence de tous les temps, y compris en 2022, y compris les imbéciles de français, pour tous les hommes, même ceux d'aujourd'hui, même le français. Là, les français. Bon, est-ce que les miracles convertissent les gens ? Pas forcément et pas toujours. Pas forcément et pas toujours. Vous pouvez avoir des gens, l'exemple typique, un des plus grands miracles de notre Seigneur. Après sa résurrection, le plus grand miracle de notre Seigneur, c'est la résurrection de Lazare. Quand même pas mal, avouez. Lazare est enterré depuis 4 jours, tout le monde le sait. Il est mort, tout le monde l'a vu mort, on l'a enveloppé de bandelettes comme ça se fait là-bas, on l'a mis dans le temps, on l'a mis une grosse pierre dessus, il va se corrompre très rapidement. Notre Seigneur Jésus qui arrive 4 jours après, il fait exprès d'arriver en retard. Bon, pour faire un grand miracle. Et puis, Sainte Marthe, puis Sainte Marie-Madeleine se plaignent un peu, Seigneur, si vous aviez été là, mon frère, ce ne serait pas mort. Seigneur savait ce qu'il faisait. Il arrive, tout le monde le suit. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va quand même pas ressusciter. Il est déjà envoyé par les vers. Il arrive devant, enlevez la pierre. Mais il est en train de pourrir. Ça va infecter toute la population. Enlevez la pierre. Lazare sort dehors. C'est impossible. Lazare sort. En plus, avec les bandelettes au pied. Je suppose que j'ai essayé de marcher avec des bandelettes autour de votre pied. C'est pas évident. Bon, donc, deux miracles. D'abord, miracle de la résurrection. Ensuite, Lazare trouve les moyens de sortir avec les bandelettes dehors. Et il y a deux phrases à ce moment-là dans l'évangile. Des conversions en masse, parce qu'évidemment, c'est quand même pas très discret. Le miracle, c'est un peu gros quand même. Tout le monde est mince. T'es mort plus de 4 jours. Il le ressuscite d'entre les morts. Bon, il est peut-être bien d'eux pour faire un truc comme ça, parce qu'un homme ne peut pas faire des choses comme ça. Mais vous avez une deuxième phrase. Les pharisiens se réunirent cherchant à trouver un moyen de tuer notre Seigneur. Donc voilà notre Seigneur Jésus-Christ qui fait un miracle énorme. Eh bien, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui se convertissent. Et des gens qui, devant le même miracle, refusent la réalité pour chercher à faire tuer, à faire mourir notre Seigneur. C'est exactement la même chose pour aujourd'hui. Souvent, les gens nous demandent, vous savez, pourquoi le Seigneur ne fait pas un miracle? Ce serait bien qu'il fasse un grand miracle. Pourquoi nous n'avons pas une autre Sainte Jeanne d'Arc? Ce serait bien qu'il nous envoie une Sainte Jeanne d'Arc. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas les Anglais à mettre dehors, mais il y a pas mal de monde à mettre dehors d'enfants, c'est pas ça qui manque. Hein? Bon, on peut donner de nom, mais on pourrait en donner. On pourrait, il y a pas mal de monde à rien à faire en France qu'on pourrait peut-être mettre dehors. Pourquoi le bon Dieu n'envoie pas un autre d'autre Sainte Jeanne d'Arc? Bon, pourquoi ne donne pas un autre Saint-Louis? Ce serait bien d'avoir comme roi Saint-Louis.
Ça serait trop beau.
Ah, moi, je vote pour lui, hein. Imaginez que aux élections, Dieu fasse un grand miracle et puis ça lui apparaît et puis devient nouveau roi de France. Oh, mon Dieu. Ouais, c'est quand même mieux que Pécresse ou Macron, hein, ou Zemmour ou Mélenchon. Pourquoi le bon Dieu ne fait pas un miracle comme ça? Pourquoi le bon Dieu ne fait pas un miracle, ne donne pas un autre Saint-Pédis? Ce serait bien d'avoir un Saint-Pédis comme pape. Alors, je vous assure, les choses seraient vite réglées. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce que Saint-Pédis, on l'a déjà. Saint Jeanne d'Arc, on l'a déjà. Saint Louis, on l'a déjà. Il suffit de reprendre ce qui a toujours été fait. Mais même, c'est ça le drame, même si aujourd'hui il y avait un grand miracle comme ça, est-ce que vous croyez que les Français se convertiraient? Pensez-vous. Parce que le matérialisme dessèche l'intelligence et dessèche le cœur. Là, vous pouvez faire tous les miracles que vous voulez, ça ne change rien. Rappelez-vous, dans l'Évangile, déjà, ils en parlaient. Rappelez-vous l'histoire de Lazare, l'homme riche et Lazare, le pauvre Lazare qui était au pied de la table de l'homme riche et qui mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche. Ils demeurent tous les deux. Lazare, c'est pas Saint Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine, c'est l'autre Lazare. Lazare va au paradis et puis l'homme riche il va en enfer parce qu'il n'a jamais voulu utiliser ses richesses pour aider les pauvres. Et puis il appelle, il y a Abraham qui vient lui rendre une petite visite de courtoisie. Et puis il dit, Seigneur Abraham, envoyez prévenir mes frères que l'enfer existe, j'y suis, j'ai des frères, envoyez-leur, allez leur dire que je suis dans les flammes et c'est des souffrances épouvantables, faites quelque chose. Et Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas besoin, ils ont les prophètes. Ah mais envoyez quelque chose, si quelqu'un vient des morts, ils feront quelque chose. Non, ils ne changeront rien. Déjà à l'époque. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin en tant que tel de ces miracles, de croire si on a vraiment la foi. Je vous donne un autre exemple qui est magnifique dans la vie de Saint-Louis. Saint-Louis, roi de France, 13e siècle.
Louis IX.
Saint-Louis, roi de France. Il y avait, de son temps, on a dit son histoire, il y avait un miracle eucharistique dans une des églises de Paris. Je ne sais plus quel est le miracle eucharistique. Il y avait une hostie qui, à chaque messe, saignait de sang visible, et tout le monde pouvait voir ce sang qui coulait de l'hostie et du calice. Tout Paris venait voir ce miracle eucharistique. Tout Paris. Y compris le sénéchal de Saint-Louis, qui s'appelait Joinville. C'est l'équivalent de son premier ministre. Bon. Tout Paris y allait. Saint-Louis n'y est jamais allé. Alors, Joinville lui dit, mais sire, tout le monde y va, pourquoi vous venez pas? Réponse de Saint-Louis. J'ai pas besoin de ça pour croire à la transubstantiation. Retournons au travail de l'État. Et à mieux boulot. Il croyait à la Sainte Eucharistie. Il n'avait pas besoin du miracle eucharistique pour croire en la Sainte Eucharistie parce qu'il y croyait déjà. C'est à mon avis un bel exemple. Vous voyez? Donc, quand les gens vous disent, monsieur l'abbé, il faut des miracles. Il faut prier le bon Dieu qu'on ait des miracles. Ce n'est pas de miracle dont on a besoin. On a besoin de la foi. Pas pareil. Hein? On a besoin de la foi. Donc, cherchez pas trop les miracles. Parce que les gens sont comme ça, ils veulent absolument des signes. C'est pour ça que j'en cours après les apparitions, y compris celles qui ne sont pas reconnues par l'Église d'ailleurs, ce qui est très dangereux. C'est pour ça que l'Église est extrêmement prudente avec les apparitions, parce que sur une véritable apparition, il y a plusieurs centaines qui sont des fausses apparitions. Vous voyez? Et donc là, faites attention à ça. Donc, il y a deux points importants dans ce deuxième paragraphe du serment antimoderniste. Premier point, on prouve la révélation et les faits divins par les miracles et la prophétie. Et les prophéties. Deuxième point, ces miracles et ces prophéties sont toujours reconnaissables aujourd'hui et sont adaptés à l'intelligence de tous les temps, même aux hommes d'aujourd'hui. Même aux hommes d'aujourd'hui. Est-ce que les hommes d'aujourd'hui sont bêtes tous. Non. Il y a une différence énorme entre les hommes, par exemple, du temps de Saint-Pédis, où les hommes ont encore plus du Moyen-Âge, les hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui sont 10 millions de fois plus orgueilleux que les hommes du Moyen-Âge. Et que même du temps de Saint-Pédis. Les hommes faisaient déjà beaucoup de bêtises du temps de Saint-Pédis, mais il n'y avait pas l'orgueil du monde moderne. C'est ça le drame. C'est que l'orgueil dessèche les intelligences. C'est pour ça que les conversions sont tellement difficiles à obtenir aujourd'hui. Parce que l'orgueil empêche l'intelligence d'atteindre son objet. C'est une espèce d'obex, comme on dit en philosophie. C'est-à-dire un obstacle qui se place sur le chemin de l'intelligence et l'intelligence n'est plus capable d'atteindre Dieu parce que, justement, il manque l'essentiel. D'accord ? Hein ? Donc, je pense que c'est le premier paragraphe parce que l'expérience m'a montré qu'en général, vous oubliez tout ce que je vous raconte au bout de 5 minutes. Hein ? Donc, premier paragraphe. Je peux prouver l'existence de Dieu à la lumière naturelle de la raison, par l'usage normal de mon intelligence. Bon. Dieu rajoute la révélation pour nous faire passer au niveau supérieur, niveau surnaturel, pour que nous puissions accepter les choses qui ne peuvent pas être prouvées comme par la raison, comme la simplicité, l'incarnation, la rédemption. Deuxième paragraphe. La révélation est prouvée. Le bon Dieu ne nous demande pas simplement de croire, il va nous prouver pour nous aider à croire. Il prouve sa révélation par les prophéties et par les miracles. Bon, ces prophéties et ces miracles sont acceptables et sont adaptés à toutes les intelligences de tous les temps, y compris les intelligences d'aujourd'hui. Saint-Pédis parle en 1910. En 2022, c'est exactement la même chose. Alors, troisième paragraphe, j'ai au moins commencé. On reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce troisième paragraphe. Troisièmement, je crois aussi que l'Église, gardienne et maîtresse de la parole révélée, a été instituée immédiatement et directement par le Christ en personne, vrai et historique, lorsqu'il vivait parmi nous, et qu'elle a été bâtie sur Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et sur ses successeurs jusqu'à la fin des temps. Bon, notre Seigneur Jésus-Christ confie donc, ça c'est le point capital, confie sa révélation. Il n'a pas lancé la révélation sans protection. La révélation est un trésor inestimable. Il va protéger la révélation dans un coffre, on appelle la vérité révélée, le dépôt de la foi, et il va donner la clé de ce coffre au pape. D'accord ? Le rôle du pape, garder le dépôt de la foi. Le rôle de Saint-Pierre, garder le dépôt de la foi. Le rôle de tous les papes pendant des siècles et des siècles, garder le dépôt de la foi.
1958.
Bon. Évidemment, en fonction des hérésies, en fonction des temps historiques dans lesquels on vit, le bon Dieu va demander au pape d'utiliser plutôt tel point de la révélation ou tel autre point de la révélation en fonction des hérésies contre lesquelles il faut se battre. On voit très bien dans l'histoire de l'Église, les hérésies, ça change tout le temps. Bon. Au début, par exemple, qu'est-ce qui était très important ? Bon, au début, on voit très bien qu'il y avait les grandes hérésies sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui mélangeaient tout. Il y en a qui insistaient tellement sur l'humanité de notre Seigneur qu'ils oubliaient qu'il était Dieu. Ou il y en a qui insistaient tellement sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils oubliaient qu'il était homme. Bon. Donc, c'était toutes ces grandes hérésies, si vous voulez, les hérésies christologiques, si vous voulez, pour rappeler, justement, pour rappeler l'humanité et la divinité d'entre Seigneur Jésus-Christ, un Dieu en trois personnes égales et distinctes. Après, vous avez eu toutes les grandes hérésies sur, par exemple, avec Béranger, des hérésies contre la Sainte Trinité. Bon. Après, vous avez eu l'arianisme, plutôt avant l'arianisme, par exemple, 4e siècle, contre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Après, il y a eu le protestantisme contre la grâce, contre l'Église, contre les sacrements, contre la messe, contre un peu tout. En fonction des hérésies, le pape utilise tel ou tel dépôt de la foi pour se battre contre ça. D'accord ? Bon. Mais il ne change rien. Même lorsque le pape, par exemple, reconnaît, prenez l'exemple de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes, qui est reconnue par l'Église, hein, Notre-Dame de Lourdes, 1800, je ne dis pas de bêtises, c'est 1800. 58, je crois. 1958. Notre-Dame de Lourdes, l'apparition de Notre-Dame de Lourdes est reconnue par l'Église catholique. Mais la foi en Immaculée Conception, qui a été annoncée à Lourdes.
Oui, elle était déjà.
Elle existait déjà dans l'Église, elle faisait partie du dépôt de la foi, attention. Donc, on voit très bien que 4 ans auparavant, le pape Pie IX avait décrété, en 1854, le dogme de l'Immaculée Conception. Est-ce que c'est le pape Pie IX qui, en 1854, a inventé le dogme de l'Immaculée Conception? Bien sûr que non. L'Immaculée Conception était déjà contenue dans le dépôt de la foi.
Les protestants,
mais donc, mais en fonction des besoins, le pape prend dans le dépôt de la foi et explicite certaines choses qui sont pas nécessaires d'expliquer, il n'est pas nécessaire d'expliquer dans notre temps. Prenez par exemple un des plus grands dogmes de la foi catholique, le dogme du Christ roi. C'est un dogme fondamental. Notre Seigneur Jésus est roi. Il est roi par naissance, parce qu'il est Dieu, comme créateur, et comme rédempteur, parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Bon. Il est roi de nos cœurs, le roi de nos intelligences, il est roi de nos volontés. C'est fondamental. Il a défini en quelle année? En quelle année était défini le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est Pie XI, 1925. Quas primas? On va dire, mais pourquoi ça n'a pas été défini avant? Parce qu'au Moyen-Âge, j'avais pas besoin d'expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ était roi, c'était aussi évident que le nom de la figure. Et si un prêtre commençait à dire, notre Seigneur Jésus-Christ est roi, attention, il est roi, et puis il est roi parce qu'il est créateur et emploi. Bon, évidemment, espèce d'andouille, il n'y a pas besoin d'expliquer ça, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, il s'agit d'expliquer ces choses-là. Parce que les gens sont tellement orgueilleux qu'ils oublient. Donc, en fonction des besoins, aujourd'hui, on est obligé d'expliquer des choses qui étaient évidentes auparavant. Encore une fois, le grand obstacle à la conversion, c'est l'humilité. Le grand obstacle, c'est l'orgueil. Donc, la destruction de l'obstacle, c'est l'humilité. Ça, on le voit très bien avec les exercices saint-Ignace. Quand on prêche les exercices saint-Ignace à des non-catholiques, quand on prêche les exercices, on commence par quoi? On va pas faire de grandes démonstrations. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Et on ne cherche pas à prouver, parce que c'est bon Dieu qui donne la foi, ce n'est pas nous. Vous voyez? Et c'est pour ça que la foi catholique, ce n'est pas les prêtres qui vont la faire rentrer dans les cervelles à coup de massue. Hein. Ce matin, à la messe à Padiès, il y avait un non-catholique qui assistait à la messe. Ici, il y a un non-catholique qui assistait à cette messe ce soir. Je suis très content d'avoir un non-catholique qui vient à la messe, Dieu gracias. Bon, parce que c'est souvent la première étape d'un processus de conversion qui peut prendre des mois ou des années. Vous voyez? Bon, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'encore une fois, il faut sauter de l'esprit cette idée qu'il faut adapter l'Église. Oui, ça c'est la grande idée du modernisme. On verra ça plus tard, mais dans tout le modernisme, si vous voulez, est fondé sur certaines fondations. Et les fondations générales. Rappelez-vous, l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Mais il y a aussi certaines erreurs philosophiques. Une des principales erreurs philosophiques sur lesquelles le modernisme base tout son travail, c'est l'évolutionnisme. L'immanentisme et l'agnosticisme. Les trois fondations, l'erreur moderniste d'après Saint Pie X, 1907. C'est la grande encyclique Pachandi du pape Saint Pie X. Il montre qu'il y a toute une série de faisceaux d'erreurs qui viennent des trois origines. L'évolutionnisme, tout change. L'agnosticisme, on ne peut être sûr de rien. L'immanentisme, tout est fait à l'intérieur de moi-même. Chacun fait sa propre vérité, chacun fait son propre Dieu, chacun fait sa propre religion, à chacun son Dieu, à chacun sa religion, à chacun ses commandements. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, la prochaine fois, si Dieu veut, ce sera donc pour la prochaine visite ici, donc premier dimanche du mois de... Non, dernier dimanche du mois de mars, on commencera, si Dieu veut, l'explication donc de ce troisième paragraphe. Je suis allé un peu lentement, mais c'est capital de bien connaître ces choses-là. Puis il faut répéter toujours les mêmes choses pour que ça finisse par rentrer. Bon, les gens me le reprochent. Vous dites toujours la même chose. Ben oui, évidemment, je n'ai pas l'intention de changer parce que je suis prêtre depuis 42 ans. À 42 ans, je disais déjà, c'est parce que tu es au courant, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Je le dis toujours. Et demain, j'ai l'intention de le dire aussi. Et à 42 ans, j'enseignais déjà qu'il y avait trois personnes dans la Sainte Trinité, qui avaient l'incarnation, la rédemption, et aux dernières nouvelles, c'est pas changé. Donc j'ai pas l'intention de changer, il n'y a pas besoin de changer. D'accord ? Alors on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.